Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Couvezia, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Une bonne chose.
Et toi?
Parfaitement.
Bon,
parfaitement.
C'est sûr.
De qui, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Du dernier roman de Laurent Binet. Il avait écrit un premier roman, c'est son deuxième roman. Pour son premier roman, il avait reçu une récompense, un prix Goncourt du premier roman. Et donc ce deuxième roman s'intitule « La septième fonction du langage ». Et donc on va parler sémiologie. Non, je te rassure. C'est juste un prétexte. En fait, dans ce roman, il se place plein de choses. Le point de départ, c'est la mort qu'on croit accidentelle d'un grand sémiologue français qui s'appelle Roland Barthes, Barthès, comme dirait Nicolas Sarkozy. Voilà. Et donc c'est le point de départ du roman. Et en fait, Roland Barthes se fait renverser par un livreur de vêtements, donc par une camionnette, alors qu'il sort d'un déjeuner avec François Mitterrand. Ça se passe en 1980, donc juste avant l'élection présidentielle, qui va voir François Mitterrand et la gauche accéder au pouvoir présidentiel pour la première fois. T'as levé le point? Et donc, en fait, ça va être louche. Ça va être bizarre quand même. Un sémiologue qui meurt renversé par une camionnette après un déjeuner avec celui qui va gagner l'élection présidentielle. C'est vraiment bizarre. Bon, quel est Hergé qui vont s'en mêler? Et donc, il y a un enquêteur qui s'appelle Jacques Bayard. Voilà, giscardien, ancien d'Algérie, facho, enfin tout ce qu'on veut.
Malheureusement, Pasqua ne peut plus témoigner.
Voilà. Et donc, il va être chargé d'enquêter, parce qu'au début, ce qui aurait pu paraître être un accident, en fait, il y a des choses qui font penser que ça pourrait être malgré tout une tentative réussie de meurtre, puisque quand Roland Barthes arrive à l'hôpital, on s'aperçoit qu'il n'a plus ses papiers d'identité. Et surtout, il manque un document qui pourrait être compromettant pour la République. Donc lui, il va enquêter. Et en fait, il va enquêter dans des milieux où il n'est pas habitué. Enfin, pour les cas, il n'est jamais allé. Voilà. Université de Vincennes, où il n'y a que des hippies, des gauchistes, qui font plein de choses, etc. Dans les milieux intellectuels, où on va voir Michel Foucault, etc. Donc, des boîtes de nuit gays, où il y a des partous. Donc, lui, il va être tout ça, alors qu'il est homophobe, etc. Et pour se faire aider, on va dire, entre guillemets, intellectuellement, eh bien, il va réquisitionner un jeune prof qui s'appelle Simon Herzog, et qui va lui décrypter à chaque fois ce que les intellectuels lui disent et pourquoi, en fait, Roland Barthes aurait pu être tué.
Personne les gêne.
Donc, eh bien, ils vont commencer leur enquête qui va leur faire croiser le chemin de deux Bulgares, a priori des services secrets, qui utilisent donc des parapluies enduits au bout de poison, suivis par donc un Japonais qui roule dans une Fuego qui n'est pas encore sortie. Enfin, voilà, il se passe plein de choses. On va être les témoins donc de repas d'intellectuels. On va voir le jeune Laurent Fabius se refaire mettre en place par François Mitterrand lors d'un repas donc chez Solers. Enfin voilà, tout ça, c'est plein de rebondissements, etc.
Un style très alerte.
Oh oui.
Beaucoup d'ironie,
beaucoup d'humour, on s'ennuie pas du tout. Voilà.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi. Nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Considère pas comme un problème. Et cours, et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi,
dernier passage,
s'il te plaît.
Donc, nos deux enquêteurs vont être reçus par le président de la République, Giscard d'Estaing, qui va donc leur donner une sorte de mandat officiellement pour enquêter, en leur demandant toute la prudence et le secret que mérite cette affaire. Et donc je trouve la page tout de suite. Monsieur le Président va vous recevoir. Jacques Beillard et Simon Herzog pénètrent dans un bureau d'angle bien éclairé au mur recouvert de soie verte. Simon est blême, mais il note instinctivement les deux fauteuils qui font face au bureau derrière lequel se tient Giscard. Et de l'autre côté de la pièce, d'autres fauteuils avec un canapé disposé autour d'une table basse. L'étudiant, donc il n'est plus prof, saisit aussitôt les termes de l'alternative. Selon que le président souhaite marquer de la distance avec ses visiteurs ou au contraire donner à la rencontre un ton plus convivial. Il les accueille derrière son bureau, qu'il utilise comme un rempart, ou les installe autour de la table basse, sur laquelle tout le monde se penche pour manger des petits gâteaux. Simon Herzog avise aussi un livre sur Kennedy, placé en évidence sur un écritoire pour suggérer l'image du chef d'État jeune et moderne que Giscard prétend lui aussi incarner. Deux boîtes, une rouge et une bleue, posées sur un bureau à cylindre, des bronzes ici et là, des piles de dossiers à la hauteur savamment calculée, trop basse, elle donnerait l'impression que le président n'en fout pas une rame, trop haute, qu'il est débordé. Plusieurs toiles de maître ornent les murs, Giscard, debout derrière son bureau massif, désigne l'une d'elles, qui représente une femme belle et sévère, les bras écartés, vêtue d'une fine robe blanche, ouverte jusqu'au ventre, recouvrant à peine ses seins lourds et laiteux. J'ai la chance d'avoir obtenu du musée de Bordeaux le prêt d'une des plus belles œuvres de la peinture française, La Grèce expirant à Missolonghi d'Eugène Delacroix. Magnifique, n'est-ce pas? Vous connaissez Missolonghi? Bien sûr, c'est la ville où est mort Lord Byron pendant la guerre d'indépendance contre les Turcs, en 1824, je crois. Simon note la coquetterie, je crois. Une guerre effroyable, les Ottomans étaient d'une grande férocité. Sans quitter son bureau, sans esquisser un geste pour leur serrer la main, il les invite à s'asseoir. Pour eux, pas de canapé, pas de petit gâteau. Toujours debout, le président poursuit. « Savez-vous ce que Malraux a dit de moi ? Que je n'avais pas le sens du tragique de l'histoire. » Du coin de l'œil, Simon observe Bayard, qui attend, silencieux, dans son imperméable. Giscard revient au tableau. Alors les deux visiteurs se sentent obligés de se retourner pour montrer qu'ils suivent. Peut-être n'ai-je pas le sens du tragique de l'histoire, mais du moins je ressens l'émotion de la beauté tragique devant cette jeune femme blessée aux côtés qui porte l'espoir de la libération de son peuple. Ne sachant pas comment ponctuer le propos présidentiel, les deux hommes se taisent, ce qui ne semble pas déranger Giscard, habitué aux marques silencieuses d'assentiment poli. Quand l'homme au parler chuintant pivote pour regarder par la fenêtre, Simon comprend que ce blanc sert de transition et qu'on va maintenant en venir au fait. Sans se tourner, offrant à ses interlocuteurs le spectacle de son crâne chauve, le président reprend. J'ai rencontré Roland Barthes une fois. Je l'avais invité à l'Élysée, un homme tout à fait charmant. Il avait analysé le menu pendant un quart d'heure et avait livré une démonstration très brillante de la valeur symbolique de chaque plat. C'est tout à fait passionnant. Le pauvre homme, j'ai appris qu'il s'était mal remis du décès de sa mère, n'est-ce pas ? S'asseyant enfin, Giscard s'adresse à Bayard. Commissaire, le jour de son accident, M. Barthes était en possession d'un document qui lui a été dérobé. Je souhaite que vous retrouviez ce document. Il s'agit d'une affaire de sécurité nationale. Bayard demande : quelle est la nature exacte de ce document, Monsieur le Président ? Giscard se penche en avant et les deux poings sur son bureau prononcent d'un air grave. C'est un document vital qui met en jeu la sécurité nationale. Utilisé à mauvais escient, il pourrait causer des dégâts incalculables et mettre en danger les fondements même de la démocratie. Je ne peux malheureusement pas vous en dire davantage. Vous devrez agir en toute discrétion, mais vous aurez carte blanche. Puis il pose enfin les yeux sur Simon. Jeune homme, on m'a dit que vous serviez de guide au commissaire. Vous connaissez donc bien le milieu de la linguistique dans lequel évoluait M. Barthes. Simon ne se fait pas prier pour répondre. Non, pas vraiment. Giscard jette un regard interrogateur à Bayard, qui explique. Monsieur Herzog a des connaissances qui peuvent être utiles à l'enquête. Il comprend comment fonctionnent ces gens-là et eux, de quoi ils retournent. Et il peut voir des choses que la police ne verrait pas. Giscard sourit. Vous êtes donc voyant comme Arthur Rimbaud, jeune homme ? Simon marmonne timidement. Non, pas du tout. Giscard lui montre du doigt les deux boîtes rouges et bleues posées sur le bureau à cylindre. Derrière eux, sous la graisse de Delacroix. À votre avis, qu'y a-t-il là-dedans ? Simon ne comprend pas qu'il passe un test et avant de considérer s'il a intérêt à le récit, répond par réflexe. Des médailles de la Légion d'honneur, je suppose. Le sourire de Giscard s'élargit. Il se lève pour aller ouvrir l'une des boîtes et on sort une médaille. Puis-je vous demander comment vous avez deviné ? Eh bien, toute la pièce est saturée de symboles. Les tableaux, les tentures, les moulures au plafond. Chaque objet, chaque détail a vocation à exprimer le faste et la majesté du pouvoir républicain. Le choix de Delacroix, la photo de Kennedy en couverture du livre posé sur l'écritoire, tout est lourdement signifiant. Mais le symbole n'a de valeur que s'il s'exhibe. Un symbole caché au fond d'une boîte, ça ne sert à rien, je dirais même plus, ça n'existe pas. En même temps, je suppose que ce n'est pas dans cette pièce que vous rangez les ampoules et les tournevis. Il me semblait peu probable que ces deux boîtes servent à deux boîtes à outils. Et si elles servaient à ranger les trombones ou la graffeuse, elles seraient sur votre bureau de travail à portée de main. Donc le contenu n'est ni symbolique ni fonctionnel. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Vous pourriez y ranger vos clés, mais je suppose qu'à l'Élysée, ce n'est pas le président qui s'occupe d'ouvrir ou de fermer les portes. Et vous n'avez pas besoin non plus de vos clés de voiture puisque vous avez un chauffeur. Alors il ne reste plus qu'une seule solution. Un symbole dormant, qui ici ne signifierait rien en lui-même, mais ne s'activerait qu'ailleurs, hors de cette pièce. Le symbole miniature et mobile de ce que symbolise cet endroit, à savoir la grandeur républicaine. Une médaille. Donc, vraisemblablement, vu l'endroit, la Légion d'honneur. Giscard échange un regard entendu avec Bayard. Je crois que je vois ce que vous voulez dire, commissaire. Voilà. Donc, comme on le disait précédemment, il y a plein de rebondissements. C'est très enrichissant. Il y a juste un passage un peu dur. C'est que, effectivement, l'écrivain Laurent Binet, il va nous exposer sur quelques pages les 6 premières fonctions du langage. Bon, là, il faut s'accrocher. Il faut être universitaire.
Wherever it takes you, boy, you've got luck. It's up on the shelf as you blend your life, as you take that road. If it takes all you've got, well, you've got what it takes to the end. I'll miss you until then. Bye. I'll miss you, my friend.
La septième fonction du langage, de Laurent Binet.
Bien sûr, l'origine d'un roman, il y a un fantasme, et ça suffit pas. Et pour que le roman existe, il faut que ce fantasme se transforme en obsession. Le fantasme doit vraiment devenir obsessionnel. Alors dans le cas de Barthes, évidemment, c'est compliqué par son esprit retors, si vous voulez. Il avait ce fantasme de faire un grand roman à la Proust. Il avait manifestement un caractère obsessionnel, mais il avait aussi cette espèce de, enfin, ce qui fonde son génie, c'est cette propension au métadiscours qui fait que, en guise de roman, finalement, qu'est-ce qu'il nous livre? Il nous livre un cours sur la préparation du roman. J'avais en tête les dernières années de Roland Barthes. Genre, en aucun cas, j'ai pas pensé une seule seconde à écrire le roman que lui aurait pu ou aurait dû écrire. Je me plaçais absolument pas à ce niveau-là. Non simplement le déclencheur, ça a été bon. À part l'importance que Barthes a eue dans ma formation intellectuelle, ça a été cette histoire quand même de camionnette, d'accident de voiture, et aussi le fait qu'il sortait d'un déjeuner avec François Mitterrand. Et là, je me suis dit, bon, quand même... enfin, en plus, pour moi qui suis féru d'histoire, je me suis dit qu'il y avait
matière... Et de président de la République.
Oui, alors c'est vrai aussi que l'expérience de la campagne de Hollande m'a été utile pour
avoir l'idée que peut-être la politique peut amener à tuer les intellectuels.
Non, pour j'irai pas jusque là. Rien ne dit que Mitterrand est impliqué dans le. Enfin, si, il est impliqué, mais en tout cas, à ce stade-là de notre lecture, on ne connaît pas l'assassin. Non, mais ça m'a été utile pour tout ce qui était scène justement avec du personnel politique. Giscard et Poniatowski, la préparation de la campagne de Mitterrand avec Debré, Attali, Moati, etc., Jack Lang, que d'ailleurs j'ai rencontré, qui avait organisé ce déjeuner avec Barthes, et donc que je remercie ici, qui m'a été d'une aide précieuse.
Alors, comment faites-vous le pont entre Roland Barthes et la chanson que vous avez choisie quand nous vous avons demandé quelle pourrait être la bande originale qui accompagnerait la lecture de ce livre? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à Kim Wilde, pour ne pas la citer?
Justement, parce que donc Roland Barthes, le fait que l'action démarre en février 80 et se termine grosso modo le 10 mai 81 à la Bastille, a nécessité que je me replonge dans le contexte de ces années précisément 80-81. Et donc, dans le livre, il y a plusieurs scènes de soirées et dans lesquelles je donne la bande son. Et donc, voilà, il y a du Cure, il y a du Bachung, il y a du Blondie. Mais alors, précisément, ce titre, Kids in America de Kim Wilde, a une fonction très particulière. En fait, je voulais que progressivement, le récit d'une manière ou d'une autre se détraque, et la façon dont j'ai choisi que mon récit allait se détraquer, c'est par une divergence qui allait se creuser, d'abord un film qui allait se creuser entre le récit et l'histoire dans laquelle il prend référence, et la première lézarde, l'une des premières lézardes qui est quasiment indétectable, celle-là, c'est la chanson de Kim Wilde, Kids in America, parce que au moment où les gens l'entendent dans la scène de soirée du livre, on est en novembre 1980 et la chanson de Kim Wilde date de 1981. Alors donc, vous voyez, c'est un petit peu subtil, mais donc si on regarde bien, quand j'annonce que le personnage principal Simon Herzog entend la chanson de Kim Wilde résonner, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, donc, moi, je précise pas du tout de ce qui va pas pour lui à ce moment-là. Mais en fait, pour moi, ce qui va pas, c'est que Kids in America, là, c'est un léger anachronisme.
Friday night and everyone's gone. I can feel the heat, but it's
J'essayais de faire jouer aux chansons une double fonction, c'est-à-dire donc une fonction d'ambiance et puis également, disons, comment dire, une fonction d'illustration qui soit raccord avec l'action, tout simplement. Par exemple, il y a un moment, il y a Killing an Arab de Cure qui, en fait, qui annonce toute une partie de la problématique dramatique avec les gigolos marocains et algériens qui gravitaient autour de Barthes et de Foucault.
Laurent Binet, l'écrivain, ce que je l'ai peu présenté juste avant, hein, il a 42 ans, comme j'avais dit, c'est son deuxième roman. Il a écrit deux autres bouquins que je vais essayer de lire. Le premier, c'est qu'il retrace son expérience de prof de français en Seine-Saint-Denis. Le deuxième bouquin, c'est qu'il a eu l'autorisation de suivre François Hollande pendant toute sa campagne présidentielle, et donc il en a tiré un bouquin. Et je n'ai pas mémorisé le titre, hein, donc je vais le rechercher. Ça s'appelle « Rien ne se passe comme prévu ». C'est tout.
Bien, je te remercie.
Je t'en prie.
À bientôt.
Merci à toi.
Léo Ferré, Mouloudji, Moustaki, c'est mon frère.